15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la rhinoplastie, l'une des interventions de chirurgie esthétique les plus fréquentes. Alors comment s'y prennent ces chirurgiens pour remodeler un nez, retirer une bosse? Quelles sont les suites opératoires? Nous ferons le point avec notre invité, le professeur Olivier Gerbeau, chirurgien esthétique et plastique. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des traitements hormonaux qui sont prescrits parfois aux femmes après un cancer du sein. Eh bien, vous verrez qu'ils sont très importants pour éviter la récidive, mais sont parfois difficiles à supporter. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler aujourd'hui des problèmes d'audition. À partir de quel âge doit-on vérifier si l'on entend toujours correctement? On fera le point sur ce sujet. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, on répondra à la question d'un jeune homme qui est très inquiet à l'idée de ne pas assurer pour sa première fois pour son premier rapport sexuel.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute sur le répondeur d'Europe 1. On écoute la première question, c'est celle de Séverine, 38 ans.
Salut l'équipe santé, j'ai une petite question. J'ai un copain, il s'est fait vacciner du papillomavirus. Et du coup, ça me taraude comme question. Et j'aimerais savoir s'il faut qu'on le fasse, enfin, ce qu'il faut que je fasse aussi. Voilà, je vous remercie à vous, à bientôt.
Alors, c'est pas Séverine, hein, c'était Alexis, 22 ans, c'est pas grave, c'était la deuxième question, mais c'est la première du coup. Est-ce qu'il faut vacciner les garçons contre le HPV, donc le papillomavirus? C'est une bonne question, hein, Jimmy. D'ailleurs, les choses pourraient évoluer bientôt en France, c'est pas pour l'instant recommandé. Pour l'instant, c'est que les petites filles, hein, je crois, en France.
Oui, pour l'instant, ce vaccin contre ce virus qui protège du cancer de col de l'utérus, qui diminue le risque, est disponible pour les filles âgées de 11 à 14 ans, avec ce qu'on appelle un rattrapage, c'est-à-dire que si on ne l'a pas fait, puisqu'on a oublié ou qu'on n'était pas encore prêt, on peut le faire entre 15 et 19 ans. Et la vaccination s'espace entre soit deux vaccins, c'est-à-dire un vaccin plus un rappel entre 11 et 13 ans. Mmh. Et après, entre 14 et 19 ans, on doit faire 3 doses à 0, 2 et 6 mois.
D'accord. Mais alors, il y a quand même des hommes, je crois, qu'on vaccine en France, en tout cas pour lesquels il y a une recommandation, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Hein.
Exactement, c'est l'HAS qui recommande ça depuis 2016, donc ça fait un petit moment. Et elle propose justement une vaccination pour les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. Mmh. Et on fait 3 injections pour eux. Ce vaccin, il est disponible dans les centres de dépistage et dans certains centres de vaccination. Et le bénéfice serait d'autant plus important qu'on se vaccine tôt dans le début de l'activité sexuelle.
Mmh, bah comme pour les petites filles.
Exactement.
Pas pour les petites filles, elles n'ont pas de rapport sexuel, mais même quand on a ce rattrapage plus tard,
il
faut vraiment qu'on soit au tout début de sa vie sexuelle.
Donc hein, on a eu peu de partenaires, et là on sait que le vaccin est encore plus efficace parce qu'on a été peu exposé à ce virus qui se transmet par les relations sexuelles.
Mmh. Et alors chez les petits garçons en France, donc au même âge que les petites filles aujourd'hui, on va y venir ou pas? Parce qu'il y a déjà des pays où on le fait.
Oui, exactement. Alors déjà en France, ça existe, c'est pas recommandé, il n'est pas remboursé pour le moment pour les petits garçons, mais ça va peut-être venir. Agnès Buzyn est plutôt favorable, mais dans d'autres pays, notamment en Suisse ou en Australie, ils le font déjà. Et on sait que ce vaccin pourrait protéger, donc on a parlé du cancer du col de l'utérus, mais aussi pourrait protéger d'autres cancers comme le cancer ORL ou le cancer de l'anus. Et donc ce n'est pas forcément des cancers réservés aux femmes, et donc ça touche tout le monde. Et d'après une étude américaine, les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes par le cancer de la gorge suite à des rapports sexuels oro-génitaux.
D'accord. Alors effectivement, vu tout ce que nous avez donné et tous ces chiffres, on se rend compte que pour les garçons, il y aurait une utilité aussi. Mais bon, déjà, il faudrait peut-être qu'on le pratique suffisamment chez les petites filles, parce que pour l'instant, ça ne marche pas trop.
La couverture vaccinale n'est pas bonne. On est à moins de 20% chez les filles en âge d'être vaccinées, alors qu'on avait fixé un premier objectif entre 2014 et 2019 à 60%.
Ah ouais,
et
loin.
Ce qu'il faut se dire, c'est que dans les autres pays, ils sont bien avancés par rapport à nous. Et il ne faut pas oublier que tous les ans, on a 3000 cancers du col de l'utérus et qui entraînent un peu plus d'un millier de morts. Bref, on pourrait améliorer ces chiffres en vaccinant les petites filles et puis secondairement les petits garçons.
Un gros effort encore de santé publique à faire, effectivement. Donc on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est bien Séverine qui nous l'a posée. Elle a 38 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'avais une question en fait. J'ai mal à la gorge quand j'avale. Et je voulais savoir si vous aviez un petit truc à me donner, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, évidemment, je prends du miel, mais je voulais savoir s'il y avait des pastilles ou d'autres petits remèdes comme ça qui existeraient pour me faire passer ce mal de gorge sans avoir à prendre des choses trop fortes. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
Alors Jimmy, est-ce que vous avez quelque chose à lui donner? Je vous demande directement, on ne fait pas de consultation aussi, hein, faut aller voir le docteur bien sûr. Mais alors quand même Jimmy, quand on a mal à la gorge, hein, ça peut être assez douloureux. Mais par contre, il faut savoir que quand on a mal à la gorge, finalement la cause, elle peut être variée.
Oui, enfin, elle est variée, mais elle reste dominée par la cause virale. C'est donc que ce soit une pharyngite, l'infection du pharynx, ou une angine, dans l'immense majorité des cas, plus de 90% chez les adultes, c'est viral. La pharyngite est strictement virale, mais on peut avoir d'autres causes, comme on parle souvent de l'extinction de voix qu'on pourrait avoir après avoir crié beaucoup,
ah oui, ça fait
pas
mal,
sur son mari,
aussi.
Mais sur ses enfants.
Ou dans un match de foot.
Ouais, ou dans un match de foot, sur un concert. Et là, c'est plutôt la laryngite, donc le larynx qui est inflammé, qui donne ces douleurs. Ensuite, lorsqu'on a un reflux très important, on peut avoir des douleurs de gorge. Bref, les causes sont plutôt diverses et variées, mais dominées, comme je l'ai dit, par les causes virales.
Et alors, est-ce qu'il faut toujours aller voir un médecin quand on a mal à la gorge?
Non, pas spécialement, parce que même si jamais vous aviez une angine, dans l'immense majorité des cas, c'est viral, et donc on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est donner un peu de paracétamol, du thé, du miel, du citron, bien vous hydrater.
Oui, le miel,
sur
c'est bien, hein, bio, de préférence, mais c'est antiseptique naturel en
exactement.
Plus.
Exactement, une tisane à base de thym, ça désinfecte, le gingembre, c'est parfait, et en règle générale, ça passe au bout de 3-4 jours.
En revanche, s'il y a de la fièvre, là on consulte hein, quand même,
oui,
ou
si
ça dure trop longtemps.
Ou attention, si vous avez très mal lorsque vous avalez votre salive, c'est que vous avez peut-être une vraie angine et que là, il faut faire un petit test de gorge pour être sûr que vous n'avez pas besoin d'antibiotiques.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Séverine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des traitements hormonaux prescrits parfois aux femmes après un cancer du sein. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le chirurgien plasticien Olivier Gerbeau, qui va tout nous dire sur la rhinoplastie, l'opération pour remodeler le nez.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre mission santé-bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Olivier Gerbeau, qui va nous parler de chirurgie esthétique du nez. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude publiée récemment sur les conséquences de l'hormonothérapie sur la qualité de vie des femmes qui ont eu un cancer du sein. Et d'après cette étude, donc, cette hormonothérapie, elle serait aussi dure à supporter sur la qualité de vie que les chimiothérapie.
Oui, exactement. Alors déjà, l'hormonothérapie, c'est un traitement qu'on donne par voie orale, en comprimé, et qui se sert à compléter ou remplacer parfois une chimiothérapie. Le but, c'est de limiter le risque de récidive en empêchant les cellules tumorales de recevoir les hormones, que sont les œstrogènes ou la progestérone, qui sont nécessaires au développement de cette tumeur.
Ça la nourrit, oui.
Ça la nourrit, exactement. La seule chose, c'est que l'hormonothérapie, elle n'est pas indiquée chez tout le monde. C'est seulement lorsque la tumeur est dite hormonosensible, c'est-à-dire qu'elle a des récepteurs qu'on a mis en évidence lors des biopsies et lors des prélèvements. On sait qu'en revanche, ce traitement est très,
très
important parce qu'il limite très franchement le risque de récidive et de rechute du cancer. Et à peu près 75% des patients ayant un cancer du sein auront un traitement par hormonothérapie.
Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude alors qui montre qu'elle est si difficile à supporter?
Alors, les chercheurs ont pris plus de 4000 femmes atteintes d'un cancer du sein qui ont été soit opérées, soit eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et suivies d'une hormonothérapie durant 5 ans. Et on s'est rendu compte que, quelles que soient les femmes, et surtout si elles avaient pris de l'hormonothérapie, leur qualité de vie avait été dégradée et plus difficile à supporter avec le traitement par hormonothérapie. Et cette qualité de vie est d'autant plus dégradée que la femme est jeune et non ménopausée.
Et oui, parce que c'est ça les symptômes. Hein, c'est quoi les effets secondaires de cette hormonothérapie?
Exactement, ça donne des symptômes de type de ménopause, parce que ça bloque une partie de la fonction hormonale, et donc ça donne des bouffées de chaleur. Et on sait qu'en plus de ça, il y a une augmentation de certains accidents thromboemboliques, donc c'est-à-dire l'embolie pulmonaire ou la phlébite. Ça peut augmenter un petit peu le risque de cancer de l'endomètre avec certains traitements, le risque d'ostéoporose, de sécheresse vaginale, de baisse de libido,
en fait,
de douleurs articulaires,
bref,
des symptômes qui peuvent avoir un vrai impact sur la qualité.
Bon, mais une fois qu'on sait ça, en même temps, on ne peut pas ne pas la donner, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aux femmes?
Alors, deux stratégies. La première, c'est d'identifier les femmes à haut risque de récidive chez lesquelles on n'aura pas le choix, qu'il faudra absolument donner le traitement. Et à contrario, trouver les femmes à faible risque de récidive pour peut-être leur éviter le traitement ou tout du moins leur donner un peu moins longtemps. Deuxième stratégie à mettre en place, c'est d'identifier rapidement les symptômes pour pouvoir les traiter et améliorer la qualité de vie avec des traitements complémentaires pour que ces femmes puissent finalement mieux supporter ce traitement.
En tout cas, c'est bien effectivement de prendre en compte ces difficultés. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, le professeur Olivier Gerbeau. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques et plastiques.
15h, 16h, Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Gerbeau.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui on va faire le point sur la rhinoplastie. Donc c'est l'opération esthétique qui vise à remodeler le nez, à refaire le nez, corriger un petit défaut éventuellement. D'abord ce type de chirurgie, on les fait depuis quand en médecine en France ?
On remonte les premières rhinoplasties à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, hein, les premières publications.
Ah oui, alors ça date effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'en France on en fait aujourd'hui beaucoup ou est-ce qu'on en fait plus ailleurs dans le monde ?
Oh, c'est une des fortes demandes en chirurgie esthétique en France, mais les pays au monde où il y en a le plus, c'est les pays du Moyen-Orient.
Ah bon, d'accord, c'est étonnant. Et pas chez nous finalement. Je pensais qu'on était plus. C'est pas une question d'être.
La chirurgie du nez, ouais, est très populaire là-bas et notamment en Iran, qui est un pays où les femmes ont un voile, plus ou moins, ils ne peuvent pas mettre en avant certains avantages. Elles sont obligées d'avoir un nez, ou elles veulent avoir un nez qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'elles font beaucoup de rhinoplastie.
Jimmy ?
Et justement, qu'est-ce qu'on vous demande en matière de rhinoplastie ? Qu'est-ce que veulent les femmes ou les hommes, hein, finalement ?
Alors, les plus grosses demandes, c'est les problèmes de bosse. Donc, des nez avec des bosses, des nez qui sont trop larges. C'est aussi souvent des problèmes de pointe qui sont trop larges, qui sont pas bien définies, trop rondes, des pointes qui tombent quand on sourit.
Le petit bout
des
du nez, quoi, c'est ça.
Ouais, des nez parfois trop masculins chez certaines femmes. Et puis, il y a les demandes de nez qui sont tordus, qui sont déviés. Et il y a aussi les demandes fonctionnelles, des gens qui ne respirent pas bien et qui rentrent dans le cadre des rhinoplasties fonctionnelles.
Il y a plus d'hommes ou de femmes qui vous demandent ce type d'opération ?
Je dirais qu'il y a deux tiers de femmes, un tiers d'hommes en rhinoplastie.
Ah oui, ils ont quel âge en moyenne, vos patients ? Quand on se fait refaire le nez, j'imagine que c'est un truc qu'on a bien réfléchi. C'est quand même en plein milieu de la figure, on le fait à quel âge ?
Oui, maintenant il y a beaucoup d'adolescents qui sont déjà gênés par leur nez, mais on essaie d'attendre la fin de la croissance, en tout cas au moins 16 ans, 16, 17 ans avant de commencer des interventions. Et puis, ça peut aller. La patiente la plus âgée que j'ai opérée avait 75 ans. Avec les techniques actuelles de rhinoplastie ultrasonique, notamment, on peut faire des rhinoplasties sans problème passé 40-45 ans, ce qui était plus problématique avant.
Donc, il y a un peu deux pics, hein, soit très jeune, soit un peu plus âgé. Merci beaucoup, professeur Gerbeau. On n'en a pas terminé. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. En quoi consiste réellement une opération esthétique au niveau du nez ? Il existe actuellement plusieurs techniques. Alors, quelles sont-elles ? Y a-t-il des risques avec cette chirurgie ? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Chez Vérissure, nous savons que le risque d'être cambriolé est multiplié par 3 quand un cambriolage a eu lieu dans le quartier.
Tu m'as appelé, chérie ?
Oui, les voisins ont été cambriolés hier soir.
Ah bon ? Mais comment ?
Ils sont passés derrière par le jardin. T'imagines, ça aurait pu être nous ?
Bon, il faut qu'on fasse installer une alarme.
Je m'en occupe tout de suite.
Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis personnalisé. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure.
Galerie Lafayette. Restez stoïque devant cette tunique, gardez la raison devant ce blouson, arrêtez de résister. Chic, c'est les 3J. Du 16 octobre au 3 novembre, jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com. Et chaque jour, ce sont moins 20% supplémentaires avec votre carte de fidélité sur des produits surprises. Modalité sur le site et en magasin. Galerie Lafayette.
Chez Poltron et Sofa, nous savons que pour profiter pleinement de votre canapé, le plaisir doit être entier. À l'inverse des prix, découvrez notre nouveau catalogue sur poltronetsofa.com et choisissez le modèle de vos rêves à moitié prix. Mais faites vite, vous avez seulement jusqu'à samedi pour en profiter.
Poltron et Sofa, autentica qualità. Et voilà.
Autentica qualità, qualité authentique.
Quand on se fait...
Aïe !
Nociceptol.
Noci quoi ?
Nociceptol. Quand on a...
Oui !
Nociceptol.
Noci quoi ?
Nociceptol. Douleurs liées aux courbatures, au sport ou simplement à l'âge, efficace, rapide, Nociceptol est un gel antidouleur à base d'huiles essentielles. Disponible en pharmacie ou sur nociceptol.fr. Nociceptol, et la douleur s'envole. Nociceptol est un dispositif médical CE fabriqué en France par le laboratoire Polydis. Consultez les instructions avant utilisation.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Dans un instant, on revient sur les opérations esthétiques du nez, les techniques de rhinoplastie. Mais d'abord, je vous propose une petite pause musicale avec le titre Twisted de la chanteuse Marina Kaye.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Olivier Gerbeau. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques et Plastiques. Alors professeur, on va passer à la pratique maintenant. Mais d'abord quand même, quand on veut changer le nez, faire une rhinoplastie, donc est-ce que le reste du visage, ça a son importance ?
Oui, parce qu'on essaie d'harmoniser justement le nez avec le reste du visage et on ne fait pas les mêmes nez sur des personnes qui ont un visage qui est large ou un tout petit visage. Donc on s'adapte à la forme du visage, mais aussi à certains éléments comme le menton, le front, les pommettes qui font ressortir plus ou moins le nez.
Donc, il y a des trucs que vous refusez, genre quelqu'un qui a un menton très pointu, vous lui faites pas
c'est
un
pas
nez.
C'est pas refusé, mais souvent on fait des profiloplasties et on fait des chirurgies simultanées du menton et du nez pour harmoniser l'ensemble.
Mmh. Alors, on va quand même reprendre par la base. Dans le nez, sur quoi vous travaillez finalement? Parce que le nez, bon, ça contient des os, ça on le sait à peu près, mais ça contient aussi quoi d'autre?
Il y a de l'os et du cartilage globalement. La partie haute du nez est composée d'os et toute la partie basse est composée de cartilage. Donc on agit sur ces deux structures.
Jimmy?
Alors, il y a plusieurs techniques pour refaire un nez, mais si on part de la plus ancienne, globalement, ça consiste à prendre un marteau et un burin et à casser le nez.
Il l'a emporté avec lui en plus. On a tout le matériel. Effectivement, je crois que c'était.
Prêt à commencer sur.
Construisait des maisons, ouais. Ou cassait des blocs de pierre. Non, c'est pour le nez.
Non, c'est vrai que classiquement, le principe, c'était en effet de casser les os du nez pour enlever une bosse, pour diminuer la largeur, pour les remettre droit. Et puis de corriger la partie basse du nez, la partie cartilagineuse, en coupant du cartilage. Et ces interventions que j'ai apprises, et c'est des interventions qui sont faites depuis longtemps. Il y a une évolution de ces interventions maintenant vers des techniques plus structurelles, plus conservatrices en fait.
Moi j'ai vos outils en main là.
Oui.
Effectivement, c'est un marteau et un burin, je confirme. Alors est-ce que c'est une chirurgie ouverte? C'est-à-dire que vous ouvrez tout le nez pour casser, effectivement. Alors c'est rhinoplastie classique, on va dire, hein, dont on parle pour l'instant. Ou est-ce que vous faites ça en passant par les narines, je ne sais pas, par l'intérieur?
Alors il y a les deux types. Hein. On peut passer juste par l'intérieur des orifices narinaires. On a une vision qui est un petit peu moins bonne. De plus en plus, maintenant, il y a une tendance à faire une toute petite cicatrice entre les deux orifices narinaires qui est poursuivie à l'intérieur pour pouvoir soulever complètement la peau du nez et voir les cartilages, voir les os et pouvoir les remodeler en douceur.
C'est pas très ragoûtant, mais en fait, vous dépecez le nez, quoi. C'est ça.
D'une certaine façon, ça. Voilà.
C'est ça, vous soulevez toute la peau et du coup, vous voyez ce que vous faites, quoi.
Exactement. Et on referme. Donc, au final, il y a juste une toute petite cicatrice de quelques millimètres entre les orifices narinaires que très rapidement, on ne voit plus du tout.
D'accord. Et donc, il y a aussi, je crois, deux écoles, ce que vous appelez la rhinoplastie classique et la rhinoplastie structurelle. C'est quoi la différence?
Alors, on a parlé de la rhinoplastie classique. Là, la rhinoplastie structurelle, ça va consister à préserver au maximum les structures osseuses et cartilagineuses. C'est souvent que Dieu a créé le nez, pas pour qu'il soit joli, mais pour qu'on puisse bien respirer. Et ces structures sont importantes pour garder les voies respiratoires ouvertes. Donc on ne va pas les abîmer, on va juste les remodeler. Remodeler les os avec la rhinoplastie ultrasonique, on va en parler après. Et remodeler la partie cartilagineuse juste par des sutures et des greffons enfouis qui vont changer la forme de la pointe, par exemple, ou remettre droit, mais sans quasiment rien enlever. Donc en préservant la fonction respiratoire.
Jimmy ?
Et donc, on va parler après des techniques comme la technique ultrasonique, ça a l'air pas mal tout ça, mais si on parle des techniques classiques, ça dure combien de temps au bloc opératoire?
Alors, sur une technique classique, la durée moyenne d'une rhinoplastie est de l'ordre de 1h30, 2h. Voilà, ça, c'est le temps normal d'une rhinoplastie classique.
S'il y a un gros chantier, quoi, on va dire, s'il y a tout le nez à
refaire,
parce que si c'est juste une petite bosse, j'imagine que ça va plus
vite.
Oui,
mais souvent, on est obligé de remodeler l'ensemble. Si on corrige la bosse, la pointe ressort plus. C'est vraiment une harmonie, le nez.
Oui.
On est souvent obligé.
On ne fait
de
pas juste tac-tac-tac, on enlève la bosse. Non. Il faut refaire aussi derrière les fondations, tout ça.
Oui, tac-tac-tac, on enlève la bosse.
Oui. Là,
on
ça a l'air simple. Là, tac, tac, tac. C'est pas tac-tac-tac. Mais... je dis tac-tac-tac parce que marteau-burin, tac-tac-tac.
Si vous ratez le coup de marteau, le coup de burin, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? Non, mais parce qu'une fois que c'est cassé, vous pouvez quand même... Non, c'est le
non,
geste
c'est,
vraiment
c'est justement un des intérêts majeurs de la rhinoplastie ultrasonique, c'est qu'une fois que c'est cassé, et que si ça ne casse pas au bon endroit, l'os peut s'enfoncer, on peut avoir des asymétries, des bosses qui ressortent, des nez de boxeur au maximum. Et ça, c'est très, très difficile à corriger. Donc, le mieux, c'est de l'éviter toujours.
Bon, donc parfois, vous le cassez un petit peu quand même, ce nez. Est-ce que ça se fait, vous avez dit 1h30, 2h au bloc, est-ce que ça se fait en ambulatoire? C'est-à-dire, est-ce qu'on sort, on rentre le matin, on sort le soir? Ou est-ce qu'il faut passer une nuit à l'hôpital, par exemple?
Alors,
après,
on peut
derrière
souvent le faire en ambulatoire. En plus, c'est une opération qui est quasiment indolore. Donc, les gens rentrent le matin et sortent le soir. Dans certains cas de rhinoplastie plus lourde ou de rhino secondaire, c'est-à-dire des gens qu'on doit réopérer d'une rhinoplastie pas réussie la première fois, on reste la nuit, on sort le lendemain matin.
Et ça coûte combien une rhinoplastie classique, là, celle dont on vient de parler?
Alors ça dépend bien sûr des praticiens, des endroits où c'est fait. Je dirais qu'en France, les prix les plus bas sont de l'ordre de 3 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, en sachant que dans certains cas, une petite partie peut être prise en charge par la Sécu lorsqu'il y a un aspect fonctionnel et remboursée éventuellement par la mutuelle aussi.
Alors on n'a pas terminé avec vous, professeur Gerbeau. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on va parler notamment d'une nouvelle technique donc de rhinoplastie, la rhinoplastie ultrasonique. Ça a l'air génial ce truc-là, on va voir. Une technique plus douce pour refaire son nez et surtout qui permet aux chirurgiens de faire quasi un travail d'orfèvre. Vous allez voir, de modeler votre nouveau nez sur mesure, au millimètre près. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Olivier Gerbeau. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques et Plastiques. Alors à présent, on va parler d'une technique plus récente de rhinoplastie, c'est la rhinoplastie ultrasonique. Alors c'est quoi? C'est un truc de super-héros, ça, non?
Non, alors en fait, c'est une technique que j'ai la chance de mettre au point avec d'ailleurs un laboratoire français, qui est le laboratoire Actéon-Comeg, et ça consiste à utiliser des instruments miniaturisés qui vibrent avec des ultrasons au lieu d'utiliser le marteau et le burin. Donc on est beaucoup plus précis, on voit tout ce qu'on fait, rien ne se fait. Avant, on cassait un peu les os à l'aveugle. Là, on voit tout ce qu'on fait, tout se fait de façon progressive, douce. On polie en fait les os de façon progressive.
Jimmy ?
Donc ça a l'air pas mal, mais du coup, quel est l'avantage pour le patient ? Qu'est-ce qu'il gagne, lui, en ayant cette technique ?
Alors, il y a deux avantages majeurs. D'abord, les suites sont beaucoup plus simples. On comprend qu'on n'a pas du tout les bleus, les cocards qu'il y a sur les rhinoplasties classiques. Donc on peut reprendre le travail globalement une semaine après sans quasiment qu'on voit qu'on a une rhinoplastie.
Pour la classique,
C'est plutôt de l'ordre de deux semaines avec des bleus qui peuvent être parfois très marqués.
Quoi,
voilà, exactement. Et puis le deuxième qui est majeur, c'est d'éviter toutes les complications dont on parlait tout à l'heure sur les rhinoplasties traditionnelles, avec ces asymétries, ces bosses qui persistent, qui ressortent, ces déviations, ces problèmes respiratoires aussi. Ça limite énormément les complications sur rhinoplastie.
Vous cassez moins les os en fait.
On les casse quasiment plus. Tout ce qu'on fait est contrôlé de façon très très progressive. Et vous savez comme moi que le nez, c'est au milieu de la figure. Donc s'il y a le moins de problèmes, c'est impossible à cacher.
Et au bloc, ça dure combien de temps, autant qu'une rhinoplastie
classique ?
C'est un
tout petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup plus d'options. C'est beaucoup plus fin, donc remodeler un nez, ça rajoute globalement un quart d'heure à peu près de temps opératoire.
Oui, c'est pas grand-chose. Et pour le patient après, pour les suites, vous disiez donc on reprend sa vie normale parce qu'on est moins marqué, moins de bleu, tout ça. Mais pareil, on rentre chez soi le soir, on passe une nuit à l'hôpital.
C'est exactement les mêmes suites.
Et en termes de douleur ?
Alors, ça fait pas mal. De toute façon, l'un comme l'autre, ces interventions ne font quasiment jamais mal.
On prend quoi ? Parce que quand même...
C'est surtout qu'on est un peu gonflé. Le seul problème, c'est qu'on est un peu gonflé au début, mais on n'a quasiment plus de bleu maintenant avec ces techniques.
Jimmy ?
Et une fois qu'on a fait la rhinoplastie, le nez ne bouge plus pour toute la vie ou on est obligé de repasser par une intervention au bout
Justement, c'est dans les rhinoplasties structurelles, qui sont des rhinoplasties où on va consolider les structures, notamment par des petits greffons enfouis, comme des petits étais qui vont maintenir le nez. C'est des greffons de cartilage qui sont prêts habituellement au niveau de la cloison, donc très postérieur. C'est des cartilages dont on n'a pas besoin. Donc on prend des petites baguettes et comme on maintient une plante, là on va maintenir la pointe du nez, différentes structures du nez, de façon à ce qu'elle ne bouge plus en effet jusqu'à la fin des jours. Alors que sur les techniques classiques où on cassait ou on enlevait les cartilages, la pointe avait tendance à tomber avec le temps comme un nez tombe normalement avec le temps.
En vieillissant, c'est ça, le nez tombe comme tout le reste. Les paupières s'affaissent, le visage s'affaisse, le nez aussi ça tombe.
Tout à fait.
D'accord. Et donc si on a fait ça, ben, a priori, on va mourir avec le même nez que vous avez donné. Grâce à l'opération, d'accord. Mmh. Et le prix de cette rhinoplastie ultrasonique, parce qu'on se dit, oh là, ultrasonique, ultra cher, non ?
C'est exactement les mêmes
prix. Non, mais c'est vrai.
Moi, j'imagine. Hein, mais...
c'est exactement les mêmes prix. C'est juste des techniques différentes qu'on utilise au bloc. Comme il y a plein d'interventions, les chirurgiens utilisent des différentes techniques, mais le prix est exactement le même.
D'accord. Et c'est donc de l'esthétique, hein, puisqu'on refait son nez parce qu'on ne le trouve pas joli, ou peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais parfois ça peut être pris en charge éventuellement une partie par l'assurance maladie.
Oui, la rhinoplastie, comme la septoplastie ultrasonique d'ailleurs, permettent de corriger des problèmes de déviation de septum, de problèmes de valve, des problèmes de respiration.
C'est quoi, le septum,
c'est la cloison nasale, pardon. La cloison nasale déviée. Différents éléments en fait, qui créent des obstructions nasales. Les obstructions nasales elles-mêmes retentissent non seulement sur la respiration, mais sur le sommeil, sur des problèmes cardiovasculaires. Donc c'est vraiment important de corriger ces problèmes lors des interventions, de ne pas en provoquer, justement, lorsqu'on fait rhinoplastie.
Jimmy ?
Et donc, si on revient sur la rhinoplastie, toute intervention chirurgicale présente des risques. Même une appendicectomie, l'enlever l'appendicite, présente un risque. Là, quels sont les éventuels risques qu'on pourrait avoir avec, justement, une rhinoplastie classique ?
Je dirais que les risques principaux, c'est les risques de mauvais résultats esthétiques et de mauvais résultats respiratoires.
C'est d'avoir un nez encore pire qu'au départ.
Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est intimement lié à l'expérience du chirurgien, aux techniques utilisées, aux instruments utilisés, au dialogue aussi avec le patient. On fait souvent des morphings, c'est-à-dire des simulations avec les patients sous différents angles avant pour bien définir le nez qu'ils veulent avoir.
Ça, c'est le principal risque, mais il y en a d'autres, peut-être.
Les risques respiratoires, on en parlait là aussi, de respirer moins bien si on ne respecte pas certaines structures, si on abîme certaines structures, en effet.
Vous disiez que la satisfaction, finalement, c'est le principal risque, que le patient ne soit pas content du résultat. Vous l'avez mesuré, justement, ça, la rhinoplastie, c'est une opération particulièrement où les gens ne sont pas toujours contents ?
Oui, il y a plusieurs études qui ont montré que c'est une opération, justement, où le taux d'insatisfaction est le plus important. Et là aussi, on a vu la corrélation avec l'expérience du chirurgien. C'est pour ça que beaucoup de chirurgiens à travers le monde qui font des rhinoplasties ne font que des rhinoplasties.
D'accord. Et en fait, justement, si on n'est pas satisfait, parce que vous dites le plus haut taux d'insatisfaction, ça fait un peu peur quand même. Donc, d'où l'importance, on va en parler après, de bien choisir son praticien. Mais s'il est raté, si je trouve qu'il est raté mon nez, c'est foutu. Maintenant que vous l'avez opéré, il a été opéré une première fois, on ne peut plus rien faire.
Non, heureusement, c'est toujours possible de faire des retouches, ce qu'on appelle des rhinoplasties secondaires. Il y a plein de techniques maintenant qui sont extrêmement sophistiquées pour corriger et revenir au nez qu'on aurait dû avoir la première fois. C'est juste des techniques qui sont beaucoup plus complexe et qui là aussi nécessite de passer par des praticiens qui connaissent très bien ces techniques de rhino secondaire.
Mais si quelqu'un vous dit, mais finalement ma bosse, je l'adorais, vous pouvez me la remettre,
ça
vous pouvez pas
arriver,
le faire.
Ça arrive, il y a des hommes notamment qui veulent retrouver le nez qu'ils avaient avant.
Promettez-moi la grosse patate que j'avais au départ, s'il vous plaît, docteur.
On ne peut pas retourner à l'état initial exactement, mais on peut recréer un aspect qui est proche de l'aspect initial, même si c'est quand même toujours un échec de devoir faire ça.
Ah bah oui, évidemment. J'imagine. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez parlé aussi des rhinoplasties ethniques. Alors, c'est quoi ça ? Vous en faites beaucoup ?
Alors oui, j'en fais beaucoup parce qu'à Paris, comme vous savez, il y a quand même une grosse communauté africaine, antillaise, asiatique. Et ce qu'on appelle rhinoplastie ethnique, c'est rhinoplastie chez toutes les personnes de ces origines.
Qui n'ont pas un nez caucasien.
Et là, le principe, à l'inverse de nos nez caucasiens, on va réduire, remodeler et d'affiner. C'est souvent des gens qui se plaignent de narines trop larges, d'une pointe qui est trop ronde, mal définie, qui veulent avoir un nez plus fin, tout en gardant leur ethnicité. Ce sont des techniques très, très différentes, mais qui sont maintenant très au point et qui permettent d'avoir un aspect naturel plus fin.
Et vous le faites ça souvent à Paris, oui, j'imagine, plus qu'ailleurs.
Oui, en France, c'est des domaines assez fréquents, et à Paris, oui.
D'accord, et ça marche bien aussi. On fait de l'ultrasonique, par exemple.
Alors, l'ultrasonique est tout à fait utile parce que ces gens-là ont souvent des nez trop larges. Et dans ces cas-là, très souvent, on est amené à prélever du cartilage costal pour restructurer le nez, parce que justement, ces nez sont plats.
Prenez une côte, quoi.
On prend un fragment de cartilage costal, c'est pas toute la côte. Mais un des risques des prélèvements costauds, c'est que derrière, il y a les poumons, la plèvre, et c'est d'avoir un pneumothorax. Avec le piezo, avec la rhinoplastie ultrasonique, il n'y a pas ces risques, puisque c'est quelque chose qui est sélectif sur les os et les cartilages. Si on coupait une plèvre, ça ne franchirait pas la plèvre.
Ça coupe pas.
Donc il
n'y
a, y a pas de risque pneumothorax. Donc ça sécurise énormément ces gestes. Ça les rend en fait beaucoup plus simples.
Et technique. Le prélèvement de bout de côte, là, vous le faites le même jour que le nez, en fait.
C'est fait exactement en même temps. C'est le seul domaine qui peut être un peu sensible. Si quelqu'un s'est déjà fêlé une côte, il sait ce que c'est qu'une douleur costale. Et voilà, ça peut être un peu sensible, ces prélèvements.
Jimmy ?
Dans la rhinoplastie, est-ce que la qualité de la peau a une importance ? Opérée, vous avez dit, une femme de plus de 70 ans, est-ce qu'on a les mêmes résultats qu'une jeune femme comme Mélanie, par exemple ?
Il y a une peau toute fraîche, toute jeune, évidemment.
Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord la qualité de la peau, les techniques. Sur des peaux très fines ne sont pas du tout les mêmes que sur des peaux très épaisses. Donc, c'est essentiel de tenir compte de la qualité des structures, de la peau, des cartilages. Ça, c'est un élément. Il y a l'âge. Hein. On parlait de l'âge. C'est vrai, on sait très bien que les gens, à partir de 40-45 ans, ont des os plus cassants. C'est pour ça qu'on se casse facilement le poignet, le col du fémur. Et quand on utilise les techniques classiques, parfois, on arrive à exploser complètement les os du nez. Avec les techniques rhinoplastie ultrasonique, on n'a pas ces problèmes. On n'a jamais ces fractures incontrôlées, ces fractures radiées, même sur des os très âgés. Donc, on peut maintenant opérer des gens même passer largement 60-70 ans.
Alors pour ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés effectivement de faire une rhinoplastie, alors ils vont se lancer, mais comment on choisit le bon chirurgien ?
Je pense que c'est important de prendre son temps, de bien se renseigner, de se renseigner sur des chirurgiens qui font spécifiquement, ou en tout cas qui font beaucoup de rhinoplastie, d'en aller voir 2-3, de comparer et après de prendre celui avec qui on se sent le plus
on
à l'aise.
On ne prend pas un chirurgien qui fait du nez, des seins, de la liposuction tous les jours, des trucs différents. On vaut mieux quand même quelqu'un qui est spécialiste.
On peut, mais le nez, c'est tellement à part. Et encore une fois,
vous faites que ça, par exemple.
Moi, je fais 95% de mon activité, c'est que des rhinoplasties.
Ouais. Ah oui, donc, c'est quand même mieux d'avoir un grand spécialiste, parce que le nez, effectivement, c'est quand même au milieu de la figure, hein, donc je préfère avoir quelqu'un qui fait que ça, effectivement. Et vous dites, vous m'avez parlé également, mais alors rapidement, des rhinoplasties médicales. C'est pas de la chirurgie, ça, c'est quoi ? C'est nouveau ?
Non,
ça,
alors dans
ça
certains
va vous remplacer ?
Oui, non, dans certains cas, ça remplace pas. Dans certains cas de personnes qui ont un creux, par exemple, à un endroit qui crée une bosse en dessous, on peut injecter de l'acide hyaluronique pour modifier, pour gommer cette bosse et redonner un aspect. Mais il faut voir que ce n'est pas du tout quelque chose qui remplace la rhinoplastie, c'est en complément. Et on ne peut pas passer par une rhino médicale en disant ça va donner le résultat de rhinoplastie chirurgicale.
C'est pas durable,
c'est deux
en
choses
plus.
Complètement différentes. Bon, ce n'est pas durable, mais si, c'est vraiment que dans quelques indications, ça peut donner tout à fait des bons résultats d'injecter de l'acide hyaluronique.
Merci beaucoup, professeur Gerbeau, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ces opérations esthétiques au niveau du nez, ces rhinoplasties. Merci encore.
Merci, Mélanie.
Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes d'audition. À partir de quel âge doit-on vérifier si l'on entend toujours correctement ? On fera le point. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un gros bobo puisqu'on parle quand même de votre audition. Quels sont les signes d'une perte d'audition ? Vers quel âge faut-il la faire contrôler ? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Je n'entends pas les aigus. J'arrive à peu près à sonoriser dans l'espace si le son vient de gauche ou de droite. J'entends la stéréo.
Non, j'ai pas de soucis d'audition, j'ai pas d'acouphènes, tout va bien.
Tous les petits bruits, les oiseaux, enfin, je pense entendre très bien et être assez sensible du coup sur tout ce qui est son.
Parfois, oui, on demande en soirée de répéter quand la musique est trop forte, mais ça, je pense pas que ça soit vraiment lié à mon audition.
J'ai pas mal aux oreilles après une soirée en boîte de nuit, après un concert, après des basses importantes ou quoi que ce soit.
Si les gens articulent pas, j'entends pas, mais je me dis que c'est toujours la faute des autres, pas la mienne.
J'ai l'impression que par contre, celle de mes parents, tant temps à diminuer un peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression de devoir toujours répéter quand je parle, même quand pour moi je juge que je suis à une distance correcte.
Il y a même des personnes jeunes qui demandent à répéter sans arrêt.
Tous les ans j'essaie d'aller voir quelqu'un, surveiller tous les deux ans pour voir si mon audition ne baisse pas. Je vois un ORL.
Quand on a des problèmes d'oreille, il faut aller voir un otorhino.
Pas trop de musique. Quand je vais dans des concerts, je mets des boules de caisse pour pas me prendre ça dans les oreilles.
Je limite aussi l'utilisation des écouteurs ou des casques.
En fait, avec la médecine du travail, on contrôle l'audition, donc en fait, a priori, c'est tranquille.
Bon, alors Dimi, la perte d'audition. Alors d'abord, on est d'accord, c'est un problème qui touche quand même essentiellement la personne âgée.
Oui, essentiellement. Donc nous,
mais
on
j'ai
est...
tort.
Non,
je le sens.
Non, vous avez raison.
Sourire.
Non, ouais. Parce que effectivement, avec l'âge,
tout vieillit.
On
a vu que le
bien.
Nez, là, tout à l'heure, vieillissait.
Exactement.
Aussi, mais les oreilles.
Et c'est pareil
aussi.
Pour l'audition. Ouais. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Même chose qu'on peut moins bien voir.
On devient presbyte, je crois,
exactement,
c'est ça.
Presbyte, ouais. Exactement. Ouais. Et sauf que ça peut aussi toucher les personnes un peu plus jeunes, notamment liées à notre environnement. Notamment si on met des. Non pas lorsqu'on nous écoute à la radio trop fort.
Ça, non,
pas de problème,
ça va, il n'y a aucun
ça
souci.
Ça marche toujours. Mais si on met la musique trop forte, si on va trop dans des concerts, si on
dans
travaille.
Dans des métiers où on travaille
exactement.
Des marteaux-piqueurs, par exemple.
Exactement.
Si on
ou dans des boîtes de
bien,
nuit,
ouais.
Dans des bars, où on sait que pour le coup, il peut y avoir une baisse de l'audition de façon précoce. Et s'il ne faut pas attendre d'avoir 70 ans pour consulter, parce qu'à ce moment-là, on a déjà une atteinte sur notre qualité de vie, on en parlera juste après.
Alors ok, du coup, comment on repère justement qu'on a un problème auditif, peut-être à 30, 35 ans, 25 ans même, on ne devient pas complètement sourd du jour au lendemain, du coup, est-ce qu'une petite, toute petite perte auditive, on peut s'en rendre compte ou ça passe inaperçu?
Alors souvent, ça passe inaperçu parce que c'est progressif, on ne s'en rend pas bien compte, c'est à bas bruit, on perd quelques décibels, d'abord ça peut être sur les aigus, puis
Jimmy.
Comment non, ça, ouais, ça. Voilà. On a fait l'école du rire en plus de l'école de la médecine, mais il y a quelques signes qui peuvent alarmer le patient. C'est notamment lorsque dans des conversations vous avez l'impression de moins bien entendre et de pas bien comprendre ce qu'on vous raconte. Lorsque vous sentez perdu, le fait d'avoir des acouphènes, on en parlera demain, mais
c'est
un équivalent,
sujet d'émission, ouais.
C'est un équivalent de baisse de l'audition. Si jamais vous avez été exposé à des bruits répétés, donc dans des travaux particuliers, marteau-piqueur ou dans des concerts, si vous avez des antécédents familiaux avec des personnes, parce qu'il y a des maladies héréditaires qui donnent aussi des baisses de l'audition dans un contexte de vertige, on appelle ça la maladie de Meniere. Et puis lorsque vous avez eu certains traitements, il y a certains traitements antibiotiques, une famille d'aminosides qu'on donne dans des infections plutôt sévères ou certaines chimiothérapies.
Qui sont autotoxiques,
qui sont
donc
auto-toxiques,
toxiques pour les oreilles.
Et donc
ouais.
À partir de ce moment-là, on sait très bien qu'il y a un retentissement et qu'il faut consulter.
Donc on consulte un ORL, hein, c'est ça?
Oui, dans l'idéal, c'est l'ORL. Parce que premièrement, il examinera votre conduit auditif
pour
vérifier
fois,
que tout va
peut
bien.
Y avoir autre chose aussi.
Que vous n'ayez pas une otite, notamment chez les enfants, une otite séreuse.
Qui peut faire perdre de l'audition.
Qui fait
hein,
perdre
aussi,
de l'audition.
Ouais.
Et le premier signe chez un enfant qui perd de l'audition, c'est un retard de langage. Un enfant qui parle plus tard, qui a du mal à parler, c'est peut-être un enfant qui entend moins bien.
Ah oui.
Et donc le premier réflexe, c'est d'aller chez l'ORL après avoir éventuellement consulté votre médecin traitant.
Et pourquoi c'est si important de dépister tôt ces troubles auditifs? Vous l'avez dit, il y a un impact sur la qualité de vie, mais en vieillissant, finalement, on finit tous un peu dur de la feuille, non? Enfin...
Oui, mais ça, c'est une idée reçue. On finit tous dur de la feuille, mais est-ce qu'on a besoin de vivre comme ça? Non.
Non,
parce
vrai.
Que pour les interactions sociales, l'interaction familiale, professionnelle, on sait que ça a une importance. Et si vous vous êtes replié sur vous-même, vous sortez moins bien, vous bougez moins bien.
Il y a plus de risques d'Alzheimer, je crois,
exactement.
Quand on n'est pas appareillé.
Parce que vous ne stimulez pas votre cerveau, parce que vous vivez un peu reclus. Et bien, à partir de ce moment-là, on sait que votre qualité de vie et votre espérance de vie peut par conséquent diminuer. Bref, n'attendez pas des symptômes multiples, notamment des symptômes très avancés, parce qu'on fait des appareils de plus en plus petits.
Donc, on ne faut pas être dans le déni.
On
peut y aller, ça se voit même moins forcément. En plus,
et souvent, on est traîné par sa femme ou son conjoint qui nous dit
« Écoute, enfant,
là, il faut y aller. Donc, allez-y, faites un premier dépistage. On arrive à trouver des appareils qui sont accessibles, parce qu'il y en a pour tous les prix, il y a des mutuelles qui le remboursent. Et puis, surtout, le préjudice esthétique est plutôt mineur, c'est souvent bien caché, et ça peut vraiment améliorer la qualité de vie.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Donc, on retiendra qu'à tout âge, au moindre doute, il faut faire tester son audition.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des angoisses chez les jeunes, particulièrement les jeunes avant leur première fois, leur premier rapport sexuel. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on a une question d'un jeune garçon, puisque c'est Baptiste, il a 16 ans, il nous a écrit, donc je vous la lis. « J'ai 16 ans et demi, m'apprête à faire l'amour pour la première fois, je suis un peu inquiet quant à ma capacité à tout gérer en même temps. Je voudrais savoir s'il y a une position en particulier pour commencer et s'il faut en faire plusieurs dans le même acte, si oui, comment passe-t-on de l'une à l'autre sans perdre son érection? Bon, il veut le mode d'emploi complet, j'ai l'impression, Catherine.
C'est propre à l'âge.
Oui, il n'a que 16 ans et demi. D'abord, j'imagine que c'est un peu normal, non, quand même, d'être inquiet avant cette première relation pour tous les jeunes hommes, quoi.
Mais bien sûr, parce que d'abord, il y a l'histoire de l'érection, il y a l'histoire du corps de l'autre, il y a l'endroit où on peut pénétrer, ça se fait comment, il y a ce qu'il faut atteindre soi-même, l'autre, l'amener, enfin, c'est beaucoup de choses, en effet. Il a raison.
Il y a plein de trucs à gérer, là. Moi, je me dis, il n'y a pas tant de trucs à gérer, c'est pas une réunion au travail. C'est un truc naturel, non ?
Mais il le prend un peu comme on prendrait aussi piloter une voiture, c'est-à-dire qu'il y a l'embrayage, il y a l'accélérateur, il y a le frein, il y a le code de la route à respecter, il y a des vitesses, enfin voilà, il y a beaucoup de choses et peut-être quelqu'un qui vous parle en même temps à côté. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile, qui devient très naturel dès lors que l'on s'éloigne un peu.
L'habitude vient en mangeant, comme vous dites souvent, après on est moins stressé, quoi, on mange facilement. Quoi.
Voilà, enfin moi je ne l'ai jamais dit, mais si vous le dites...
si, vous avez déjà parlé d'alimentation, il me semble.
Oui, je ne sais pas si je l'avais dit en ce sens. Enfin, soit. Le fait est qu'effectivement, il y a des choses qui deviennent très naturelles parce qu'à partir du moment où on se met à mettre un pied devant l'autre, il y a toujours les premiers pas, la peur du déséquilibre. Et puis ensuite, on sait faire quand vous marchez, vous ne réfléchissez plus au déséquilibre d'un pas ou d'un autre. Donc en fait, les choses se font assez naturellement, mais dans un premier temps, il faut se mettre dans son confort. Donc, peut-être effectivement des positions dans lesquelles on n'a pas à gérer, de faire des pompes, d'avoir une érection, d'essayer de trouver une entrée pas très facile à trouver, si elle est dans tous les sens et elle-même tordue. Donc oui, c'est se trouver une position dans le confort de la relation et de la tendresse.
Jimmy ?
On dirait que vous parlez d'un labyrinthe, mais est-ce qu'on peut rassurer...
Je crois que c'est ce qu'il croit.
Est-ce qu'on peut rassurer Baptiste en disant que de toute façon, la première fois, il risque d'être mauvais de toute façon ?
Mais bien sûr, parce que...
Ça ne va pas le rassurer, le pauvre.
Mais si, mauvais dans le sens où effectivement il sera emprunté, il se sentira peut-être en difficulté, mais comme elle aussi, enfin c'est de toute façon ce sont les premières fois quand on fait l'amour, mais aussi les premières fois avec un nouveau partenaire, parce que il faut s'accorder l'un et l'autre, donc il aurait tout le mode d'emploi pour peu que elle soit dans une inquiétude, elle se positionnera tout à fait différemment d'ailleurs, et donc du coup elle-même elle peut le mettre en défaut ou en difficulté par ses propres inhibitions. Donc oui, acceptons que c'est drôle d'essayer, c'est drôle de se planter, c'est drôle de s'amuser ensemble à essayer quelque chose, un peu comme des petits chercheurs qui cherchent un trésor où leur corps est presque un peu étranger à eux. Et petit à petit, on investit ce corps comme étant mien et on en trouve la logique et, comme vous disiez, le naturel.
Vous disiez qu'il vaudrait mieux qu'il opte pour des positions plutôt faciles au départ. Est-ce qu'il y a quand même une ou deux positions que vous pouvez lui conseiller, simples pour débuter, quoi, on va dire ?
Oui, effectivement, pas pendu au lustre, etc. Donc, je pense que fondamentalement, ce sont des positions où on laisse le libre arbitre à la femme, par exemple, qui, parce qu'il est allongé et tout en la préoccupation de son pénis, bien, du coup, c'est elle qui vient s'asseoir et qui vient se pénétrer de son pénis. Donc là, il n'a pas la préoccupation. Puis elle est dans une position où elle va se poser comme ce sera plus confortable pour elle et donc pour lui. Comme ce peut être aussi des positions très tranquilles, très douces, comme la position de la cuillère où tout le monde est sur le côté, on est lové les deux corps l'un dans l'autre. Le corps pénétré de dos et le corps pénétrant.
Ça, c'est simple aussi pour débuter pour les jeunes
garçons. Oui, parce
qu'on
n'a pas besoin d'être sur un effort musculaire et on est tout à fait dans la tranquillité et d'un accès facile du corps pénétré.
Jimmy ?
On peut lui conseiller de faire combien de positions ? Parce que je suppose qu'il ne va pas enchaîner tout le Kama Sutra, mais parce que parfois c'est dans le fantasme des garçons en disant on va en faire plein, il faudrait qu'il en fasse combien dans l'idéal ?
Une. Voilà, une, ça suffit très bien, c'est parfait. Ouais. Et puis d'ailleurs, même pour une deuxième ou une troisième, on n'est pas obligé de...
Ça évite d'avoir cette angoisse de perte de l'érection, justement, en bougeant moins. Là, ça
exactement.
Mieux.
Et puis après, si on perd son érection, c'est génial. Ça donne loisir à des tas d'autres... Alors, je vois que vous dodelinez de la tête. Je vois que ça n'a pas l'air de vous plaire. Mais si, faites l'expérience du truc absolument génial. C'est jeu des bandes. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles. Et du coup, ça ouvre l'occasion de rire, de s'amuser, de se caresser, c'est de découvrir d'autres choses jusqu'à la surprise d'une nouvelle érection qui permet une nouvelle position. Et ce n'est pas que pour les jeunes hommes où je disais une position, mais c'est pour tout le monde. C'est une, et puis peut-être deux, et puis peut-être encore une, et puis peut-être quatre. on s'en fout. C'est justement, laissons la surprise du moment et de l'envie, de la curiosité de l'instant.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier, nous ferons le point sur les acouphènes, un problème bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. On fera le point sur les traitements éventuels, mais surtout sur la prévention, notamment chez les jeunes. Le mieux, c'est encore de ne jamais en souffrir, on vous dira tout.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.